Alors maintenant, je vais te demander, en quelques mots, bien que je la connaisse déjà un petit peu, de me raconter ta vie, en gros. Pas forcément de façon linéaire, mais qui tu es, qu'est-ce que tu fais.
Voilà, ma vie, je suis quelqu'un qui est venu en 1952, un 24 janvier, quelque part dans une montagne de la Wilaya. J'ai fait mes études dans une école française jusqu'en 72. Ensuite, j'ai quitté le lycée, ici à Chlaf. Il n'y avait qu'un seul lycée de poissons. Après le lycée, j'ai rejoint l'enseignement, l'éducation. Ensuite, j'ai passé un examen d'entrée à l'école normale supérieure d'Alger. Et là-bas, j'ai préparé une licence en langue française. Et ensuite, en 1995, j'ai eu à passer le concours du magistère, ex formule, et j'ai soutenu en octobre 2002. Ça a été un peu long, vous voyez. Et puis, j'ai rejoint l'université. Avant l'université, j'ai exercé aussi la fonction d'inspecteur de l'éducation. J'ai parcouru un peu les écoles primaires. J'ai découvert quelque chose de formidable, c'est-à-dire comment se fait le contact enseignant-apprenant avec les effets de changement au niveau du ministère de l'Éducation et la réforme. Et là, j'ai pu constater que la prise en charge des enfants est un peu chaotique, voire même catastrophique, parce que les enseignants qui étaient censés apprendre une langue étrangère aux enfants, eux-mêmes ne savaient pas que cette langue mérite d'être appréhender avec une sagesse, je m'explique, c'est-à-dire connaître sa syntaxe, et comme disait Deep, c'est-à-dire un noir, elle est alignée sur une ligne et qui aurait un sens. Et puis j'ai assisté aussi à un débat entre un enseignant et un apprenant où l'enfant a réussi à donner la bonne réponse, et là c'était quand même l'horreur, c'est que l'enseignant a dit à l'enfant que tout ce que tu dis là est faux. Et après le débat avec l'enseignant, je lui ai expliqué qu'il avait raison et que vous, monsieur, vous avez tort. Il n'a pas cru. Donc, vous voyez que l'emprise et les réticences au niveau des changements sont énormes au niveau de ces enseignants arabophones. Et c'est des classes qui sont destinées à des gens qui devraient être en mesure de donner des informations sur l'apprentissage de la langue. Et de là, j'ai quand même vu la DE pour leur dire que, écoutez, il y a beaucoup de choses à revoir au niveau de la formation. Donc c'est un problème de budget qui s'est posé. Et c'était très difficile de faire sentir à ces gens-là que la réforme a été mise en place et qu'il y a lieu de changer d'habitude, de réflexe, de voir une approche beaucoup plus réaliste et éviter cette centration de l'apprentissage sur l'enseignant, alors qu'il y a lieu de cibler tout ça sur l'apprenant. Et ensuite, je me suis dit, tiens, je perds mon temps, disons que j'ai rejoint l'université où je me suis occupé des étudiants, beaucoup plus sage et plus compréhensif, parce que là, c'est des gens adultes. Et actuellement, j'exerce la fonction d'enseignement au niveau de l'université avec une charge en plus qui est le département. Et c'est une fonction qui m'honore en plus parce que je suis en contact permanent avec les responsables de l'école doctorale algéro-française et qui me fait l'honneur aussi de connaître ma collègue et sympathique amie Sarah Leroy, Ariette Auvin-Chapeau, que je cite au passage, M. Sablerol, et peut-être que j'oublie d'autres, mais bon, c'est parfait quand même, c'est excellent et c'est une expérience très enrichissante.
Ça te donne l'occasion d'avoir pas mal de contacts et de sortir de la stricte université de Chlaf.
Voilà, absolument. Donc, ça me permet d'ouvrir ma petite lucarne au niveau de la tour et de voir que l'horizon est très vaste et très, très enrichissant.
Mais quand tu parles là des enseignants, tu faisais l'inspection pour l'enseignement primaire en général ou simplement pour le français ?
Maintenant, uniquement pour le français, j'étais inspecteur de matière, parce qu'il y a l'inspecteur administratif et l'inspecteur de matière. Et à chaque fois, on coordonnait nos travaux pour les éventuels rapports qui se faisaient pour l'ADE, la direction de l'éducation, qui est toujours appelée académie, je ne sais pas pourquoi, parce que les gens ne sont pas académiciens. C'est beaucoup plus des administratifs. Et les enseignants, à ma foi, ils sont là et ils attendent le tout fait, le tout cuit, c'est-à-dire cette préparation de fiches qui a été longtemps décriée par les académiciens. Eux, pour eux, ils préfèrent la garder parce qu'il y a tout fait. Il y a le questionnement, les éventuelles réponses, donc il ne fait que répéter pendant les séances. C'est les différentes méthodes, la méthode audio-orale, les SGAV, les méthodes structuro-globales, audiovisuelles. Mais ça ne marche pas du moment que la prise en charge des enseignants et la formation n'est pas adéquate et n'est pas surtout très prise en charge par les responsables, c'est-à-dire par les experts de la matière.
Parce que tu dis les arabophones, mais normalement les profs de français, ce sont des francophones.
Alors là, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'est que maintenant qu'on commence à injecter des gens de formation, de spécialisation en français. Les écoles primaires, surtout les écoles éloignées, où l'on remarque qu'il y a l'enseignant arabophone qui fait les deux cours, qui fait tout, surtout que le manque d'enseignants est énorme.
C'est pour ça
que et là, on est obligé de faire appel à ces gens-là. Je vous raconterai une petite anecdote. J'ai assisté à un enseignant qui croyait être bilingue. Bon, il y avait un texte sur le tableau avec un titre « Banane ». Et l'enfant lisait « Banane » avec la discrimination phonématique, c'est-à-dire le montage syllabique et le démontage pour montrer le « A, A, A ». Et puis il disait, au niveau du genre, un banane, les enfants répètent un banane. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'il a tort, non, c'est pas un banane, c'est une banane. Et puis à la fin, je lui ai fait expliquer que, écoutez monsieur, banane, c'est à ma foi, c'est un nom féminin en français et masculin en arabe. Et là, vous avez un problème de transfert et d'emprunt et d'interférence, on appelle ça comme on veut, mais on dit une banane. Il n'a pas voulu saisir le mot. Il m'a dit non, monsieur, c'est vous qui avez tort. Et là, j'ai réagi violemment, administrativement, parce que je l'ai reversé dans son corps d'origine, c'est-à-dire l'enseignement d'art. Pour la simple raison que c'est un enseignant qui, au lieu de s'occuper de sa langue, la langue maternelle, la langue académique avec les enfants, il a préféré aller enseigner le français, parce que il y a un peu de repos disant ça, parce que le volume horaire est très inférieur par rapport à la langue, à son collègue arabophone.
Pour le primaire. Parce que si j'ai bien compris, en fait, l'arabophone fait tout.
Oui, il fait tout, sauf le français.
Et le francophone fait que le français.
Ne fait que le français.
Donc c'est intéressant d'être...
C'est intéressant d'être enseignant de français. Et c'est des gens qui font beaucoup de gymnastique pour aller rejoindre une classe en français. Parce qu'ils se retrouvent, ils trouvent un peu de repos. Et ma foi, ils se sont vite rendus à l'évidence qu'il n'y a pas de repos avec les gens qui font correctement leur travail.
Mais il y a l'enseignant de français ne fait qu'une école ?
Il fait une seule école avec 4 classes, 5 classes, 3 par 3 heures, ça lui fait 15 heures, 18 heures maximum.
D'accord.
Par
là,
semaine.
Là où l'enseignant arabophone a une classe, le francophone a les 4 classes, parce qu'il leur fait le français.
Il fait 3e, 4e, 5e année. Là, lorsque le français était pris en charge à partir de la 4e année fondamentale dans l'ancien système, et puis ça a été revu, et l'enfant apprend le français à partir de la 2e année primaire. Or, après 3 ans de mise en pratique de cette nouvelle réforme, il s'est avéré que ça ne marchait pas au niveau de l'intérieur du pays. Ça ne collait pas, ça ne marchait pas. Et puis, ils ont envoyé une circulaire à toutes les directions de l'éducation du territoire national que, dorénavant, le français doit être revu et appris en 3e année primaire. On a décalé d'une année.
C'était uniquement à l'intérieur du pays, sur les côtes, ça marchait ?
Ah non, non. La note, elle est valable pour tout le monde.
Oui, mais le chèque...
Mais sur les grandes villes, les grandes métropoles, ça marchait. Et là, c'est dommage, pas uniquement pour tout le territoire, parce qu'il y a des enseignants qui travaillent bien avec leurs enfants. Il m'est arrivé à assister à une CMET, une petite pièce théâtrale, avec une enseignante de formation francophone, qui maîtrisait très bien le français. Elle est arrivée à monter une pièce, une scène avec des enfants de 9, 10 ans, 11 ans, où ils arrivaient à s'exprimer aisément en français. Donc le déséquilibre était tel que, bon, il fallait que qu'on repousse le français en troisième année primaire. Et là, on pourrait se dire, tiens, l'enfant, les premiers réflexes qu'il aurait eu en première année, deuxième année, troisième année, lui permettrait quand même de gérer des comportements en troisième année, lorsqu'il apprendra le français. Il saura qu'il faut écrire de la droite à gauche, et ensuite de gauche à droite. Et on lui apprend les gestes machinaux qui lui permettraient de mieux faire une vision de la langue et d'affronter, une fois pour toutes, le bilinguisme. Si bilinguisme il y a. Parce que là, les enfants, ma foi, lorsque les enseignants arrivent sans préparation, je ne vous le cache pas, ils découvrent les textes en même temps que les enfants. Donc, la préparation mentale n'est pas prise en charge le soir à la maison. On voit même actuellement des enseignants qui vont en classe et vers leurs écoles sans cartable. C'est quand même aberrant. Avec un journal sous les bras, une cigarette. Et ce qui est quand même scandaleux, c'est que les gens ne réagissent pas à ce comportement social. Comment un enseignant peut-il se lever le matin, passer dans un café, prendre son café, et ensuite aller les mains dans les poches vers sa classe. Sachant qu'il y a 4 fois 40 élèves, puis 160 élèves qui attendent. Ma foi, j'ai toujours condamné ce geste.
Mais donc, ça m'intrigue que ça marchait moins bien dans l'intérieur que dans les côtes. C'est parce que c'est un peu comme ici, le français est quand même beaucoup moins présent que dans les grandes villes du Nord.
Oui, ici à Chlef par exemple, le français, on pourrait quand même dire que au niveau du centre de Chlef, il y a quand même des enseignants, il y a un bain linguistique, il y a un décor en linguistique en français. Les enfants quand même arrivent à parler, à s'exprimer correctement sans être influencés par la langue maternelle. Parce que beaucoup d'enseignants vous diront, j'ai même demandé à des étudiantes en troisième année de linguistique contrastive d'aller en classe et de faire un enregistrement d'un cours, quel qu'il soit. Et là j'ai constaté que au niveau de la double articulation de beaucoup de phonèmes qui sont très mal prononcés, exemple le U, le E et le OU et le I. Pour l'enfant, il n'y a qu'un OU, c'est celui de sa langue maternelle qui fait transférer en langue française. Et là, j'ai pu demander à l'exposante, au groupe exposant, est-ce que vous avez discuté avec l'enseignant? Là, il me disait qu'il ne voulait pas que nous la prenions déjà en enregistrement, surtout en caméra. Pas pour tout le monde, heureusement, mais certaines enseignantes, on les a vues en plein moment de classe. Elles faisaient un travail énorme quand même, et je les félicite pour ce qu'ils font et qu'ils continuent à faire.
Toi, le fait d'avoir abandonné l'inspection, c'était un peu à la fois, je suppose que tu en avais assez personnellement.
Un ras-le-bol.
Et puis, c'était un peu un constat d'échec aussi.
Voilà, un constat d'échec, non pas de ma part, mais par la pression administrative, parce qu'ils voulaient que même certains rapports soient rédigés en arabe. Ouais. J'ai dit non, je rédigerai tout en français, surtout que c'est des rapports pédagogiques. Une copie qui sera transmise à l'enseignant, l'autre à son service administratif. Et moi, mes conseils, c'est dans le rapport au niveau des conclusions qu'on donne. Donc voilà, monsieur, j'ai remarqué que dans votre cours, vous avez respecté les étapes, les moments, le temps, la symbiose qui s'est allée en classe avec les enfants, le feedback, est-ce que ça marchait très bien, ça ne marchait pas très bien. Tout ça, je ne pouvais pas le mettre en arabe. Je ne sais pas le mettre en arabe parce que je suis de formation beaucoup plus francophone. Et c'était aussi une routine qui me faisait un peu mal. Donc, j'ai décidé de claquer la porte en toute honnêteté.
C'est vrai, tu es parti
en démissionnant quand même déçu de beaucoup de comportements, de très mauvais souvenirs de la part de l'administration de la tutelle. Je vais vous raconter une deuxième anecdote. Là, en inspection en plein mois de novembre, il y a de cela 5-6 ans, il y avait une enseignante qui avait pris dans une commune déshéritée une classe en quatrième année de français. Elle étudiait un texte où elle devait faire la différence entre le be et le peu. Elle avait écrit bonjour au lieu de bonjour. Bon, j'ai compris en rentrant, bonjour mademoiselle, ça va, etc. Je lui ai dit bonjour.
pour lui montrer, écoutez, mademoiselle, on ne dit pas bonjour, on dit bonjour. Le beau, il est bien là, ce sont des bilabiaux. Mais là, vous dites un B, bonjour, on ne dit pas bonjour. Elle n'a pas réagi lorsque je lui ai dit bonjour. Je me suis assis au fond, elle a continué avec le peu, confusion, peu, beu, confusion. À la fin, je lui ai dit, j'ai appelé son directeur, voilà, vous la cessez immédiatement parce que c'est une enseignante locataire de licence d'arabe. Et elle a réagi violemment à ma décision. Elle est allée voir même ses responsables administratifs. Et les responsables administratifs m'ont convoqué pour me remettre à l'ordre. J'ai vu le premier responsable de la direction. Il lui expliquait que voilà, voilà, c'est une fille incompétente, inapte à enseigner le français. C'était l'expression que j'avais mise sur le rapport, inapte. Et il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je lui ai dit, c'est à vous de prendre les décisions qui s'imposent. Mais moi, si jamais vous la remettez sur ce poste, je la cesserai.
De nouveau.
De nouveau, il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, je ne suis pas inspecteur, je suis avocat des enfants. Je n'aime pas que des enfants, peut-être que parmi ces enfants, il y a mon enfant, votre enfant, je n'oserai jamais fermer les yeux sur les carences pédagogiques. Et là, j'ai établi ma démission et j'ai quitté.
Et selon toi, est-ce que c'est cette incurie qui règne? Est-ce que c'est simplement le système
Ce n'est pas une incurie, c'est beaucoup plus un état de fait qui s'est répercuté au fil des ans.
Mais est-ce que c'est spécifique aux Français ou est-ce que c'est l'administration en général?
Il y a un peu de tout, c'est imbriqué, il y a des interférences partout. Lorsque on vous établit un barème de notation sur l'état d'avancement du fonctionnaire, vous lui donnez 16 entre 16-17 lorsqu'il a été classé au 7e, 8e échelon, lorsqu'on vous impose ce barème, mais c'est un barème quand même qui est très contraignant pour l'inspecteur parce qu'il ne lui donne pas la latitude de faire rabaisser la note, sauf si effectivement le constat d'échec est apparent chez l'enseignant. Et là, je vous raconterai une autre affaire d'inspection dans une école, ça c'est récemment, juste avant mon départ. J'ai vu un inspecteur arabophone m'a saisi, il m'a dit, écoutez, il y a un problème au niveau d'une école et ça vient de votre enseignant. Qu'est-ce qui se passe?
Votre enseignant.
Qu'est-ce qui se passe? Il m'avait dit que voilà, il y a un problème de sexualité, d'obsession sexuelle. Il y a même une requête des parents, de l'association des parents d'élèves. Il m'a ramené le rapport avec des revues de nudité, de sexisme et j'en passe. À des enfants de 6e année primaire, donc c'est des filles quand même assez pubères. Et puis, il ne faudrait pas qu'on informe l'enseignant qu'on va lui rendre visite. Il faut aller en cachette. Donc, on a décidé de choisir la journée qu'il fallait. J'ai laissé la voiture dehors, comme ça, il ne pourrait pas me voir. On est rentré par une porte secondaire. On est allé voir le directeur. Je lui ai dit, est-ce qu'il est en classe? Il m'a dit qu'il était en classe, effectivement. Bien, on a fait un petit questionnaire au directeur. Voilà, est-ce que vous êtes sûr que cette opération d'influence sexuelle sur les filles, les attouchements, les caresses sur les cheveux, c'est écrit là? Est-ce que vous êtes sûr? Parce que là, c'est grave. C'est très grave et qu'il fallait prendre une décision radicale pour l'enseigner. Il nous a répliqué, oui, c'était ça. Et puis, c'est des enfants qui racontent la vérité à leurs parents. Je suis allé en classe, j'ai laissé l'inspecteur arabophone inspecter un autre enseignant d'arabe, parce que chacun avait sa mission. Lorsqu'il m'a vu, il avait un tuyau à la main. Il était habillé en survêtement, donc une tenue un peu débrayée. Il n'y avait pas de cartable. Il faisait, si mes souvenirs sont bons, de l'orthographe, des mots, des syllabes. Je l'ai salué, bonjour monsieur, ça va, permettez que je puisse assister à votre colloque. Ah, si, vous pouvez revenir une autre fois, parce que là... Non, je lui dis, c'est juste pour voir si effectivement il y a un petit courant qui passe entre vous et les enfants. Il était un peu indécis, puis il m'a dit, puisque vous êtes inspecteur, même si je vous dis non, vous allez vous imposer. Je lui dis, non, je ne m'impose pas, je vous demande la permission, c'est juste une petite visite comme ça. Il m'a donné son autorisation, mais j'avais le droit de rester quand même, sans le lui demander, mais c'est pour éviter d'éveiller les soupçons. Je me suis mis au fond, il a effacé son mantas syllabique et il m'a dit, monsieur, je peux faire conjugaison. Je lui ai dit, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Il a commencé à faire la conjugaison. Il mélangeait le futur avec le présent, le futur antérieur avec le futur. Enfin, tous les temps là, du le temps simple, de l'indicatif et le temps composé. Et puis, je lui ai demandé, est-ce que je peux avoir votre cahier de roulement? Parce que là, sur le cahier de roulement, on voit l'avancement des unités didactiques. Mais il n'y avait rien, non, je ne l'ai pas rempli. C'était un cahier officiel pour l'administration, pour l'enseignant, pour l'inspection. C'est pas grave, j'ai pris quelques cahiers des enfants et c'était là l'image. Je constatais que c'était un enseignant qui n'avait rien à faire avec l'enseignement. Tenez-vous bien, il avait 23 ans d'expérience. Sa note n'a pas évolué depuis qu'il a pris ses fonctions. Il avait un 10, il est resté avec son 10.
Ce qui est un désaveu.
Quand même. Oui, c'est ce qui est un désaveu, bien sûr, pour lui. Et puis, je lui ai dit, est-ce que vous avez des répartitions dans le temps, comme ça? Qu'est-ce que vous allez faire la semaine prochaine? Comment vous voyez cette notion de projet? Qu'est-ce qu'un projet? Non, moi, je ne parle pas de projet. Moi, je parle de fiches EPN. L'IPN, c'est l'Institut Pédagogique National qui, autant, établissait des fiches et les donnait aux enseignants. C'est-à-dire, c'était tout le tout cuit. L'enseignant, il prenait, il regardait, ils avaient même les objectifs. À la fin de la séance, l'enfant doit être capable de, et toute la taxonomie de Bloom qui revient. Et puis, je me suis dit, écoutez, monsieur, est-ce que vous venez à la formation? Parce que je programme des journées de formation tous les jeudis pour les éventuels changements qui sont opérés, la préparation sur le projet, qu'est-ce qu'un projet? Oui, je sais. Il m'a dit oui, je sais. Mais pourquoi vous n'appliquez pas ce qu'on vous dit de faire pendant les journées pédagogiques? Écoutez, monsieur, moi, c'est des enfants qui ne sont pas habitués de faire le projet. Je ne vous demande pas votre avis. On vous demande d'appliquer et d'exécuter les programmes officiels du ministère de l'Éducation nationale. Bien, le débat était clos ici. Les cahiers ne sont pas corrigés. Enfin, c'était tout sauf de l'enseignement. Puis je l'ai convoqué au bureau de monsieur le directeur en compagnie de mon collègue inspecteur. Et là, on a fait sortir les revues. Il était quand même abasourdi de voir tout ça, ses rapports.
Il n'imaginait même pas qu'en fait il était en tort.
Ah non, non. Et ensuite, première question du débat, pourquoi vous aviez un tuyau à la main? Pourquoi cette agression psychologique des enfants? Parce que, non, c'est juste pour leur faire peur. Mais vous n'avez pas à leur faire peur. Vous êtes là pour les faire des gens courageux. C'est des gens qui doivent affronter un avenir, une vie. Là, il ne pouvait plus parler parce qu'il avait bien tué en main. Il ne pouvait pas me dire non qu'il ne l'utilisait pas pour les petits rappels à l'ordre. Scolaire, disons ça, comme ça, parce que... Et puis, on lui a parlé de son problème d'attouchement sexuel. Il a nié complètement, en bloc. Ensuite, on a fait appeler les élèves, des filles, assez quand même, assez mûres. Elle nous a raconté une en pleurant, versant des larmes, en sanglotant. Mais on a compris que c'était vrai ce qu'elle disait. Et puis on lui a demandé, monsieur, vous êtes condamnable. En principe, ça passe en justice. Cet état de fait doit passer en justice. Mais nous, parce que nous avons une tutelle, nous passons par la tutelle. Vous avez deux propositions. Ou on met le dossier sous la main du responsable, premier responsable, et vous serez sanctionné et vous passez en justice, ou vous partez en retraite. Parce qu'il pouvait partir en retraite anticipée parce qu'il a dépassé 20 ans. Il avait plus de 50 ans. Et là, il nous avait promis qu'il partirait en retraite. Il lui avait donné un délai au-delà de janvier. C'était les vacances, ensuite la rentrée au mois de janvier, le 3 ou le 4. Si on vous trouve ce poste, vous passez en justice. Et là, il est parti en retraite.